Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier opus de la Bibliothèque de Babel, votre nouvelle émission sur Transistor. Je suis Florian et je vais vous présenter ce premier numéro. Justement, alors qu'allez-vous trouver dans cette bibliothèque ? Vous allez trouver des textes, des bribes de textes, des mots nombreux, des langues. Tout ne sera pas nécessairement en français, puisque nous allons vous faire découvrir des textes divers et variés. Et aujourd'hui, nous allons justement lire La Bibliothèque de Babel de Borges. Nous avons avec nous Antonio, qui vient de Valence et qui donc finit sa thèse à l'ENS, pour nous faire partager ce texte. Bonjour Antonio.
Bonjour, merci.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter brièvement Borges pour nous dire un peu qui c'est ?
Oui, Jorge Luis Borges est né à Buenos Aires en 1899, Argentine. Il était polyglotte, il parlait allemand, anglais, espagnol, français et des autres langues germaniques. Et il est devenu aveugle en 1955, mais il a continué à écrire en dicton. Il se faisait lire aussi jusqu'à sa mort à Genève en 1986.
Voilà, donc Borges était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui parlait beaucoup de langues. C'était un grand lecteur, on retrouve beaucoup de citations dans ses œuvres, beaucoup de citations d'œuvres existantes. Il a eu une chaire de littérature allemande et anglaise, et donc c'est pour ça que nous l'avons choisi comme premier auteur pour cette émission. Il avait une soif de lire et une soif de langue, qui correspond donc à ce que nous voulons ici vous donner. Donc nous allons commencer tout de suite avec le début de la nouvelle en espagnol. Vous allez pouvoir écouter l'intégralité de cette nouvelle sur le site. Pour l'instant, nous allons juste en lire le début en espagnol et ensuite vous aurez la version en français. Antonio, je t'en prie.
La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. By this art, you may contemplate the variation of the 23 letters. The Anatomy of Melancholy, Part 2, Section 2, Member 4. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles, a 5 largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa.
C'était donc le début du texte, et je vous enjoins à aller écouter l'ensemble de la nouvelle en espagnol, qui est donc disponible sur le site. Alors Antonio, je te dis au revoir, et merci beaucoup pour cette lecture.
Merci à toi, Florian.
Et nous allons continuer donc avec la lecture de la version traduite. La bibliothèque de Babel, par José Luis Borges. By this art you may contemplate the variation of the 23 letters. The Anatomy of Melancholy, Part 2, Section 2, Mem 4. L'univers, que d'autres nomment la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération, bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, à raison de 5 par côté, couvrent tous les murs, moins 2. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un étroit corridor, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a 2 cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire à ses gros besoins. À proximité, passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le corridor, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent la conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques, appelés lampes, assurent l'éclairage. Au nombre de 2 par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pérégrinations à la recherche d'un livre, et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je suis né. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute, qui est infini. J'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable. Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire, avec un grand livre également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagone porte 5 étagères. Chaque étagère contient 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes, et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. Avant de résumer la solution dans la découverte, malgré ses tragiques projections et peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome. La bibliothèque existe ab aeterno. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire, soit l'œuvre du hasard ou de démiurges malveillants. L'univers, avec son élégante provision d'étagères, de tomes énigmatiques, d'infatigables escaliers pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Pour percevoir la distance qui sépare le divin de l'humain, il suffit de comparer ces symboles frustes et vacillants que ma faillible main griffonne sur la couverture du livre avec les lettres organiques de l'intérieur, ponctuelles, délicates, d'un noir profond, inimitablement symétriques. Deuxième axiome. Le nombre des symboles orthographiques est de 25. Ici, le texte s'interrompt par une note de l'éditeur, qui est la suivante. Le manuscrit original du présent texte ne contient ni chiffres ni majuscules. La ponctuation a été limitée à la virgule et au point. Ces deux signes, l'espace et les 22 lettres de l'alphabet, sont les 25 symboles suffisants énumérés par l'inconnu. Fin de la note. Ce fut cette observation qui permit, il y a quelque 300 ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque et de résoudre de façon satisfaisante le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer. La nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci, que mon père découvrit dans un hexagone du circuit 1594, comprenait les seules lettres MCV, perversement répétées de la première à la dernière ligne. Un autre, très consulté dans ma zone, est un pur labyrinthe de lettres. Mais, à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase « Ô temps, tes pyramides !» Il n'est plus permis de l'ignorer. Pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact, il y a des lieux et des lieux de cacophonie insensée, de galimatia et d'incohérence. Je connais un district barbare où les bibliothécaires répudient comme superstitieuse et vaine l'habitude de chercher au livre un sens quelconque et la comparent à celle d'interroger les rêves ou les lignes chaotiques de la main. Ils admettent que les inventeurs de l'écriture ont imité les 25 symboles naturels. Mais ils soutiennent que cette application est occasionnelle et que les livres ne veulent rien dire par eux-mêmes. Cette opinion, nous le verrons, n'est pas complètement fallacieuse. On a cru pendant longtemps que ces livres impénétrables répondaient à des idiomes oubliés ou reculés. Il est vrai que les hommes les plus anciens, les premiers bibliothécaires, se servaient d'une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant. Il est vrai que quelques dizaines de milles à droite, la langue devient dialectale, et 90 étages plus haut, incompréhensible. Tout cela, je le répète, est exact. Mais 410 pages d'inaltérables MCV ne peuvent correspondre à aucune langue, quelque dialectale ou rudimentaire qu'elle soit. D'autres insinuèrent que chaque lettre pouvait influer sur la suivante, et que la valeur de MCV à la troisième ligne de la page 71 n'était pas celle de ce groupe à telle autre ligne du telle autre page. Mais cette vague proposition ne prospéra point. D'autres envisagèrent qu'il s'agissait de cryptographie. C'est cette hypothèse qui a fini par prévaloir et par être universellement acceptée, bien que dans un sens différent du primitif. Il y a 500 ans, le chef d'un hexagone supérieur, de nouveau une note de bas de page, cette fois-ci de l'auteur, anciennement, il y avait un homme tous les trois hexagones. Le suicide et les maladies pulmonaires ont détruit cette proportion. Souvenir d'une indicible mélancolie. Il m'est arrivé de voyager des nuits et des nuits à travers couloirs et escaliers polis sans rencontrer un seul bibliothécaire. Il y a 500 ans, le chef d'un hexagone supérieur mit la main sur un livre aussi confus que les autres, mais qui avait deux pages, ou peu s'en faut, de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montra sa trouvaille à un déchiffreur ambulant, qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais. D'autres prétendirent que c'était du yiddish. Moins d'un siècle plus tard, l'idiome exact était établi. Il s'agissait d'un dialecte lituanien samoyède, du guarani, avec des inflexions d'arabe classique. Le contenu fut également déchiffré. C'était des notions d'analyse combinatoire, illustrées par des exemples de variables à répétition illimitée. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelque divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas dans la vaste bibliothèque de livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des 20 et quelques symboles orthographiques, nombre, quoique très vaste, non infini. C'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout ! L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique de ta mort, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres, le traité que Bède put écrire et n'écrivit pas sur la mythologie des Saxons, ainsi que les livres perdus de Tacite. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'existât quelque part, dans quelque hexagone. L'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement usurpé les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, on parla beaucoup des justifications. Livres d'apologie et de prophétie qui justifiait à jamais les actes de chaque homme et réservait à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients abandonnèrent le doux hexagone natal et se ruèrent à l'assaut des escaliers, poussés par l'illusoire dessein de trouver leur justification. Ces pèlerins se disputaient dans les corridors étroits, proféraient d'obscures malédictions, s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs, périssaient précipités par les hommes des régions reculées. D'autres perdirent la raison. Il n'est pas niable que les justifications existent. J'en connais moi-même deux, qui concernent des personnages futurs, des personnages non imaginaires peut-être. Mais les chercheurs ne s'avisaient pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelques perfides variantes de la sienne, approche de zéro. On espérait aussi, vers la même époque, l'éclaircissement des mystères fondamentaux de l'humanité, l'origine de la bibliothèque et du temps. Il n'est pas invraisemblable que ces graves mystères puissent s'expliquer à l'aide des seuls mots humains. Si la langue des philosophes ne suffit pas, la multiforme bibliothèque aura produit la langue inouïe qu'il y faut, avec les vocabulaires et les grammaires de cette langue. Voilà déjà 4 siècles que les hommes, dans cet espoir, fatiguent les hexagones. Il y a des chercheurs officiels, des inquisiteurs. Je les ai vus dans l'exercice de leurs fonctions. Ils arrivent toujours harassés. Ils parlent d'un escalier sans marche qui faillit les tuer. Ils parlent de galeries et de couloirs avec le bibliothécaire. Parfois, ils prennent le livre le plus proche et le parcourent, en quête de mots infâmes. Visiblement, aucun d'eux n'espère rien découvrir. À l'espoir éperdu, succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelque étagère de quelque hexagone enfermait des livres précieux et que ces livres précieux étaient inaccessibles, sembla presque intolérable. Une secte blasphématoire proposa d'interrompre les recherches et de mêler lettres et symboles jusqu'à ce qu'on parvint à construire, moyennant une faveur imprévue du hasard, ces livres canoniques. Les autorités se virent obligées à promulguer des ordres sévères. La secte disparut, mais dans mon enfance, j'ai vu de vieux hommes qui se cachaient longuement dans les latrines avec de petits disques de métal au fond d'un cornet prohibé et qui faiblement singeait le divin désordre. D'autres, en revanche, estimèrent que l'essentiel était d'éliminer les œuvres inutiles. Ils envahissaient les hexagones, exhibant des permis, quelquefois authentiques, feuilletaient avec ennui un volume et condamnaient des étagères entières. C'est à leur fureur hygiénique, ascétique, que l'on doit la perte insensée de millions de volumes. Leur nom est explicablement exécré. Mais ceux qui pleurent sur les trésors anéantis par leur frénésie négligent 2 faits notoires. En premier lieu, la bibliothèque est si énorme que toute mutilation d'origine humaine ne saurait être qu'infinitésimale. En second lieu, si chaque exemplaire est unique et irremplaçable, il y a toujours, la bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de facsimilés presque parfaits qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou par une virgule. Contre l'opinion générale, je me permets de supposer que les conséquences des déprédations commises par les purificateurs ont été exagérées par l'horreur qu'avait soulevé leur fanatisme. Ils étaient habités par le délire de conquérir les livres chimériques de l'hexagone cramoisi, livres de format réduit, tout puissants, illustrés et magiques. Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous, celle de l'homme du livre. Sur quelque étagère, de quelque hexagone, raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans la langue de cette zone persistent encore des traces du culte voué à ce lointain fonctionnaire. Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa recherche, qui un siècle durant bâtirent vainement les plus divers horizons. Comment localiser le vénérable et secret hexagone qu'il abritait ? Quelqu'un proposa une méthode régressive. Pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B, qui indiquerait la place de A. Pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C, et ainsi jusqu'à l'infini. C'est en de semblables aventures que j'ai moi-même prodigué mes forces, usé mes ans. Il est certain que dans quelque étagère de l'univers, ce livre total doit exister. Ici, une nouvelle note de l'auteur. Je le répète, il suffit qu'un livre soit concevable pour qu'il existe. Ce qui est impossible est seul exclu. Par exemple, aucun livre n'est aussi une échelle. Bien que sans doute, il y ait des livres qui discutent, qui nient et qui démontrent cette possibilité. Et d'autres dont la structure a quelque rapport avec celle d'une échelle. Il est certain que dans quelque étagère de l'univers, ce livre total doit exister. Je supplie les dieux ignorés qu'un homme, ne fût-ce qu'un seul, il y a des milliers d'années, l'ait eu entre les mains et l'ait lu. Si l'honneur, la sagesse et la joie ne sont pas pour moi, qu'ils soient pour d'autres. Que le ciel existe, même si ma place est l'enfer. Que je sois outragé et anéanti, pourvu qu'en un être, en un instant, ton énorme bibliothèque se justifie. Les impies affirment que le non-sens est la règle dans la bibliothèque. Et que les passages raisonnables, ou seulement de la plus humble cohérence, constituent une exception quasi miraculeuse. Il parle, je le sais, de cette fiévreuse bibliothèque dont les hasardeux volumes courent le risque incessant de se muer en d'autres et qui affirment, nie et confondent tout comme une divinité délirante. Ces paroles, qui non seulement dénoncent le désordre, mais encore l'illustrent, prouvent notoirement un goût détestable et une ignorance sans remède. En effet, la bibliothèque comporte toutes les structures verbales, toutes les variations que permettent les 25 symboles orthographiques, mais point un seul non-sens absolu. Inutile d'observer que les meilleurs volumes parmi les nombreux hexagones que j'administre ont pour titre « Tonnerre coiffé »,« La crampe de plâtre » et « Axaxaxas meuleux ». Ces propositions, incohérentes à première vue, sont indubitablement susceptibles d'une justification cryptographique ou allégorique. Pareille justification est verbale, et ex hypothesi figure d'avance dans la bibliothèque. Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple DHC, MRL, CHTDJ, que la divine bibliothèque n'ait déjà prévue, et qui, dans quelqu'une de ces langues secrètes, ne renferme une signification terrible. Personne ne peut articuler une syllabe qui ne soit pleine de tendresse et de terreur, qui ne soit dans l'un de ces langages le nom puissant d'un dieu. Parler, c'est tomber dans la tautologie. Cette inutile et prolixe épître que j'écris existe déjà dans l'un des 30 volumes des 5 étagères de l'un des innombrables hexagones, et sa réfutation aussi. Un nombre n de langages possibles se sert du même vocabulaire. Dans tel ou tel lexique, le symbole « bibliothèque » recevra la définition correcte, système universel et permanent de galerie hexagonale. Mais « bibliothèque » signifiera « pain » ou « pyramide » ou toute autre chose, les 7 mots de la définition ayant un autre sens. Toi qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue ? L'écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je connais des districts où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages de barbares baisers, sans être capables d'en déchiffrer une seule lettre. les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimé la population. Je crois avoir mentionné les suicides, chaque année plus fréquents. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et par la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque subsistera, éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptibles, secrètes. Je viens d'écrire « infini ». Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler qu'en quelque endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître. Ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, des siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui, répété, deviendrait un ordre. L'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Ici, le texte s'achève sur une note. Laetitia Albares de Toledo a observé que cette vaste bibliothèque était inutile. Il suffirait, en dernier ressort, d'un seul volume, de format ordinaire, imprimé encore 9 ou encore 10, et comprenant un nombre infini de feuilles infiniment minces. Cavalieri, au commencement du XVIIe siècle, voyait dans tout corps solide la superposition d'un nombre infini de plans. Le maniement de ce soyeux vademecum ne serait pas aisé. Chaque feuille apparente se dédoublerait en d'autres. L'inconcevable page centrale n'aurait pas d'envers.